Vos rodomontades sont inconvenantes, déclara Sir Glendon au ménétrier. Oh, vraiment? En ce cas, je me dois de vous demander pardon, sir. Jamais je ne voudrais offenser un fils de boule en feu. La déclaration prit le jeune homme à contre-pied. Vous savez qui je suis? Le fils de votre père, j'espère.
Regardez, coupa Sir Kyle le chat, la tourte de mariage.
Si Marmiton la poussait par les portes sur un large chariot à roulettes. La tourte était brune, croustillante et immense, et des bruits montaient de l'intérieur, pépiments, caquettements et chocs. Lord et Lady Burpuy descendirent de l'estrade pour aller à sa rencontre, épée en main. Quand ils la fendirent, une cinquantaine d'oiseaux en jaillirent pour s'envoler dans toute la salle. Dans d'autres banquets de noces auxquels Dunk avait assisté, les tourtes étaient farcies de colombes ou d'oiseaux chanteurs, mais dans celle-ci se pressaient des geais et des alouettes, des pigeons et des colombes, des merles et des rossignols, de petits moineaux bruns et une grande perruche rouge.
« 21 sortes d'oiseaux !» commenta Sir Kyle.
« 21 sortes de fientes d'oiseaux !» corrigea Sir Ménard.
« Votre âme est dénuée de poésie, sœur.
Votre épaule immaculée de fientes.
C'est la façon traditionnelle de farcir une tourte, expliqua Sir Kyle avec un reniflement dédaigneux, tout en nettoyant sa tunique. La tourte symbolise le mariage, et un mariage véritable renferme bien des choses différentes, la joie et le chagrin, la douleur et le plaisir, l'amour, le désir et la loyauté. Il convient donc d'y placer des oiseaux de maintes espèces. Nul homme ne sait vraiment ce que son épouse lui apportera.
Son connin, rétorqua Prune. Sinon, où serait l'intérêt? Dunk s'écarta de la table. J'ai besoin d'aller prendre l'air. À vrai dire, il avait besoin d'aller pisser, mais en si bonne compagnie que celle-ci, il était plus courtois de parler d'air. « Je vous prie de m'excuser. »« Hâtez-vous de revenir, sœur, » lui lança le ménétrier. « Il y a encore des battleurs qui vont se produire, et il ne faudrait pas que vous manquiez le coucher. » Dehors, le vent de la nuit lécha Dunk comme la langue d'un énorme animal. La terre battue de la cour semblait se mouvoir sous ses pas. Ou peut-être était-ce qu'il tanguait. On avait installé les lys au centre de la cour extérieure. Sous les murailles, on avait érigé une tribune à trois niveaux de gradins en bois, afin que Lord Burpuy et ses invités de haute naissance fussent bien ombragés sur leurs sièges garnis de coussins. Aux deux extrémités des lys se dressaient des tentes où les chevaliers endosseraient leur armure, ainsi que des râteliers de lances à leur disposition. Quand le vent souleva un instant les bannières, Dunk sentit l'odeur de la chaux sur la palissade des lys. Il partit en quête de la cour intérieure. Il devait dénicher l'œuf et envoyer le garçonnet voir le maître des jeux afin de l'inscrire sur les listes. Cette tâche incombait à l'écuyer. Toutefois, Mur-Blanc lui était inconnu, et sans savoir comment, Dunk s'en fut dans une mauvaise direction. Il se retrouva devant les chenils où les molosses, flairant sa présence, se mirent à aboyer et à hurler. « Ils veulent m'arracher la gorge, » se dit-il, « à moins que ce ne soit le chapon sous ma cape qui leur fasse envie. » Il rebroussa chemin en longeant le septuaire. Une femme passa en courant, riant à en perdre le souffle, un chevalier chauve lancé à ses trousses. L'homme ne cessait de trébucher, si bien que la femme finit par revenir pour l'aider à se relever. « Je devrais me glisser dans le septuaire et demander aux sept de faire de ce chevalier mon premier adversaire, » songea Dunk. « Mais cela aurait été une impiété. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un lieu d'aisance et pas d'une prière. » Il y avait des buissons à proximité, sous une volée de degrés en pierre pâle. Cela fera l'affaire. Il se fraya un passage derrière eux et se délassa les brais. Sa vessie semblait près d'éclater. Il pissa interminablement. Quelque part au-dessus, une porte s'ouvrit. Dunk entendit des pas sur les marches, le frottement des bottes sur la pierre.
« Un broquet de mendiants que vous nous offrez, sans égracié. »« Tes graciers aillent se faire foutre !»
insista une voix familière.
« On ne peut pas se fier à un bâtard, pas même à lui. Quelques victoires sauront lui faire promptement traverser la mer. » « Lord Peak. »
Dunk retint son souffle et son urine.
« Les victoires, on en parle plus facilement qu'on ne les remporte. »
Celui qui s'exprimait avait une voix plus grave que Pique, un grondement de basse avec une nuance de colère.
« Le vieux son de lait s'attendait à ce que le petit l'ait avec lui, et il en ira de même pour tous les autres. Les discours habiles et le charme ne peuvent pas remplacer ça. Un dragon le pourrait. Le prince assure que l'œuf éclora. Il l'a rêvé, tout comme il a un jour rêvé de la mort de ses frères. Un dragon vivant nous gagnera toutes les épées que nous pourrions vouloir. Un dragon est une chose, un rêve en est une autre. Je vous garantis que Freux Sanglant ne rêve pas, lui. Il nous faut un guerrier, pas un rêveur. Ce garçon est-il bien le fils de son père? Contentez-vous donc de jouer votre rôle comme promis, et laissez-moi m'en inquiéter.
Une fois que nous aurons l'or de Beurpuy et les épées de la maison Frey, Arenal suivra, puis les Bracken.
Otto sait qu'il ne peut espérer tenir. »
Les voix s'amenuisaient avec l'éloignement des discoureurs. L'urine de Dunk se remit à couler. Il secoua sa queue une fois et se relassa. « Le fils de son père, » marmonna-t-il. « De qui parlait-il ? » « Du fils de Boulanfeu ?» Le temps qu'il émerge de sous l'escalier, les deux seigneurs avaient traversé une bonne partie de la cour. Il faillit les héler pour les obliger à montrer leur visage, mais se ravisa. Il était seul et sans armes, et à moitié ivre par-dessus le marché. Peut-être plus qu'à moitié. Il resta planté là un moment, sourcils froncés, puis il reprit le chemin de la salle. À l'intérieur, on avait servi le dernier plat et les attractions avaient commencé. Une des filles de Lord Frey jouait deux cœurs qui battent comme un seul sur la harpe bardique, très mal. Quelques jongleurs s'échangèrent un moment des torches embrasées, puis des battleurs exécutèrent des pirouettes dans les airs. Le neveu de Lord Frey entonna « La Belle et l'Ours », tandis que Sir Kirby Pym battait la mesure sur la table avec une cuillère en bois. D'autres se joignirent à lui, jusqu'à ce que la salle tout entière beugle « un ours, tout noir et brun, tout couvert de poils !» Lord Caswell perdit connaissance à table, le visage dans une flaque de vin, et Lady Vuiver fondit en larmes, sans que nul sût avec certitude la cause de son désarroi. Tout du long, le vin continua de couler. Les riches rouges de la treille cédèrent la place à des crus locaux, du moins le ménétrier l'affirma-t-il. À vrai dire, Dunk ne voyait pas de différence. Il y eut également de l'hypocras, il lui fallut en goûter une coupe. Un an pourrait passer avant que j'en aie une autre. Les autres chevaliers errants, tous vaillants gaillards, avaient commencé à discourir des femmes qu'ils avaient connues. Dunk se surprit à se demander où se trouvait Ansel ce soir-là. Il savait où était Lady Rohan, au lit, au castel de Froide-Douve, le vieux sœur Eustace à son côté, ronflant dans sa moustache. Aussi essaya-t-il de ne pas penser à elle. « Songe-t-elle jamais à moi ? » s'interrogea-t-il. Ses idées mélancoliques furent interrompues sans ménagement par une troupe de nains grimés qui jaillirent du ventre d'un cochon de bois à roulette pour se lancer autour des tables à la poursuite du fou de Lord Beurpuy et le frapper avec une vessie de porc gonflée qui produisait des bruits obscènes chaque fois qu'un coup portait. C'était le spectacle le plus cocasse que Dunk ait vu depuis des années. Et il s'esclaffa avec tous les autres, Leurs facéties séduisirent tant le fils de Lord Frey qu'il y prit part, cognant les invités de la noce avec une vessie empruntée à un nain. Cet enfant avait le rire le plus agaçant que Dunk ait jamais entendu, un rire aigu et perçant, en hoquet, qui lui donnait envie de coucher le gamin en travers de son genou ou de le jeter au fond d'un puits. S'il me frappe avec sa vessie, je ne réponds de rien.
Voilà le poupon qui a conclu le mariage,
commenta Sœur Ménard alors que le morveux sans menton passait en hurlant. Comment cela ? Le ménétrier tendit une coupe vide et un serveur qui s'approchait la remplit de vin. Sœur Ménard jeta un coup d'œil vers l'estrade où la mariée offrait des cerises à manger à son mari.
Saint Seigneurie ne sera pas le premier à beurrer ce biscuit. Son épouse a été déflorée aux jumeaux par un marmiton, à ce qu'on raconte. Elle se glissait dans les cuisines pour le rencontrer. Hélas, une nuit, son petit frère s'est faufilé à sa suite. Lorsqu'il les a vus en train de faire la bête à deux dos, il a poussé un glapissement et les cuisiniers et les gardes ont accouru pour trouver madame et son fouillot au pot en train de campuler sur la dalle en marbre où la cuisinière étale la pâte, tous deux nus comme au jour de leur naissance et farinés de pied en cap.
« Ça ne peut pas être vrai, » se dit Dunk. Lord Burpuy avait de vastes domaines et de pleins pots d'or jaune. Pourquoi irait-il épouser une fille flétrie par un casserolier? Et céderait-il son œuf de dragon pour marquer leur union? Les frais du pont n'étaient pas plus nobles que les Burpuy. Ils possédaient un pont plutôt que des vaches, voilà l'unique différence. Les seigneurs, qui saura jamais les comprendre? Dunk croqua des noix et songea à la discussion qu'il avait surprise pendant qu'il pissait. Dunk le poivreau, qu'imagines-tu avoir entendu? Il but une nouvelle coupe d'Hippocrate, car le goût de la première lui avait plu. Puis il cala sa tête sur ses bras croisés et ferma les yeux juste un instant pour les reposer de la fumée.